RCF.
Le Royaume-Uni manquerait-il à ses obligations en matière d'aide aux migrants et aux réfugiés après l'adoption hier de la loi permettant d'expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile étant entrés illégalement dans le pays? C'est ce qu'estime la CAFOD, l'agence catholique anglaise pour le développement dans le monde. Une avancée en matière de droits de l'homme, les députés européens interdisent les produits issus du travail forcé. Ils devraient également entériner le devoir de vigilance imposé aux entreprises pour protéger notamment l'environnement dans leur chaîne de production. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont commencé à définir leurs frontières communes. Chaque gouvernement a son propre agenda. Pour Bakou, il s'agirait ainsi de se donner une belle image à l'international à quelques mois de la COP. Le président argentin se félicite du premier excédent budgétaire depuis 2008, mais à quel prix? Dans les universités, les coupes sont sévères, ce qui crée des mécontentements. Reportage à Buenos Aires. L'église du Cambodge en plein essor à quelques jours de la journée mondiale des vocations qui a eu lieu dimanche. Nous reviendrons sur les raisons de ce succès avec Mgr Olivier Schmittelser, le vicaire apostolique de Phnom Penh. C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Au moment où hier matin, 5 migrants dont une fillette mouraient noyés dans la Manche, le Parlement britannique adoptait définitivement et après plusieurs mois de vifs débats, une loi prévoyant l'expulsion vers le Rwanda des demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni. Ce texte a été vivement critiqué par l'ONU et le Conseil de l'Europe, mais aussi par l'Église catholique et plusieurs associations catholiques britanniques. Elles estiment qu'au-delà de ce seul aspect, Londres néglige ses responsabilités dans l'aide aux migrants et aux réfugiés. C'est ce que nous explique Neil Storms. Il est responsable du plaidoyer au sein de la CAFOD, l'agence catholique anglaise pour le développement dans le monde.
Il n'est pas normal que le Royaume-Uni nie ou néglige ses obligations en matière de soutien aux personnes qui fuient les conflits, les difficultés économiques et tout le reste. Notre organisation est sur le point de lancer un appel pour la situation au Soudan, car nous constatons que l'une des pires crises humanitaires au monde se produit sans vraiment attirer l'attention. Nous savons qu'en raison de cette crise, les gens fuient et se rendent au Soudan du Sud et dans les pays voisins qui accueillent la grande majorité des personnes fuyant cette terrible situation. En général, ces personnes ne viennent pas en Europe, elles ne viennent pas au Royaume-Uni. Je pense donc qu'il s'agit de reconnaître où va la grande majorité des réfugiés et des migrants. L'Europe et le Royaume-Uni en accueillent très peu. En réalité, nous sommes les pays qui ont le plus de ressources pour aider et nous devrions prendre notre juste part et notre partage du fardeau en termes de contributions financières. Nous avons vu ce budget baisser au Royaume-Uni et dans tous les pays européens. Par conséquent, qu'il s'agisse de nos budgets d'aide ou de notre soutien aux réfugiés et aux migrants, nous devrions les augmenter.
Des propos recueillis par notre consoeur de la rédaction anglophone, Linda Bordoni. Ils sont eux aussi réfugiés parfois depuis toujours ou déplacés, les Palestiniens de la bande de Gaza. Ils sont plus d'un million à être amassés depuis des semaines à Rafah dans le sud de l'enclave, une ville menacée d'un assaut israélien. Leur évacuation, comme le souhaiterait le gouvernement israélien, n'est pas possible dans les conditions actuelles. C'est ce qu'a affirmé la Croix-Rouge. Venir en aide à ces Palestiniens, c'est le rôle de l'UNRWA, l'agence onusienne, accusée sans preuve par Israël d'être lié à des groupes terroristes. Son chef, Philippe Lazzarini, a réclamé une enquête du Conseil de sécurité de l'ONU sur les attaques d'Israël qui ont tué 180 employés de l'UNRWA et détruit ou endommagé depuis le début de la guerre plus de 160 locaux essentiels à la distribution de l'aide aux réfugiés. Interdire les produits issus du travail forcé sur le continent européen, c'est chose faite. Les eurodéputés ont voté hier en plénière à Bruxelles à une écrasante majorité, 555 voix sur 705. Un autre vote doit intervenir aujourd'hui pour entériner un devoir de vigilance aux entreprises afin de protéger l'environnement et les droits humains dans leur chaîne de production. Une question éthique, Delphine Allaire.
Oui Xavier, cette nouvelle législation votée hier pourrait entre autres concerner la commercialisation des productions chinoises ou la pratique des travaux forcés est menée dans le Xinjiang envers la minorité ouïghour, ce que conteste Pékin. Pour certains produits jugés à risque, les importateurs devront donc fournir des informations détaillées sur les fabricants. Surtout, Bruxelles créera une base de données mise à jour et établira une liste de secteurs touchés par le travail forcé imposé par l'État dans des régions précises, un critère clé pour ouvrir une enquête. Selon le texte, la Commission européenne lancera des enquêtes en cas de soupçons dans les chaînes d'approvisionnement dans des pays tiers. Si le recours au travail forcé est avéré, la décision sera prise par un comité réunissant les 27. Les produits seront alors saisis aux frontières et devront être retirés du marché européen comme des plateformes en ligne. Si le risque concerne en revanche un État membre de l'UE, les autorités nationales mèneront elles-mêmes l'enquête. Voilà pour le procédé. Le travail forcé, Xavier, touchait 27,6 millions de personnes dans le monde en 2021, dont plus de 3 millions d'enfants, selon l'Organisation internationale du travail. Il fait bien sûr partie de ces différents visages de l'esclavage moderne, dénoncés par le Saint-Siège et l'Église universelle comme atteinte à la dignité humaine.
Delphine Allaire, un pas vers la paix dans le Caucase. Erevan et Bakou ont annoncé hier avoir commencé la délimitation de leurs frontières communes, 7 mois après la reprise par l'Azerbaïdjan de la région séparatiste du Haut-Karabakh. Si la normalisation des relations est l'objectif affiché, les motivations des deux pays sont bien différentes. L'Arménie se réjouit d'avoir réussi à ramener l'Azerbaïdjan à la table des négociations sur la base des accords de la déclaration d'Almata de 1991, une déclaration qui transforme les frontières administratives soviétiques en frontières administratives et internationales. En revanche, Bakou, elle, cherche à embellir son image auprès de la communauté internationale à quelques mois de la COP29. C'est ce qu'estime Gaïd Minassian. Il est journaliste au Monde, enseignant à Sciences Po Paris, expert associé aux séries.
Bakou vient de s'apercevoir qu'il y a eu, il y a quelques jours, un vote de la Chambre des représentants américaine qui donc montre que les États-Unis, l'Occident vont se surengager aux côtés de l'Ukraine. Donc une victoire probable de la Russie est plus que compromise. Donc Bakou est obligé d'en tenir compte. Deuxièmement, Bakou veut montrer à l'Occident qu'il est favorable aux négociations parce que la dynastie Aliyev a peur d'éventuelles sanctions et son image est largement ternie. Enfin, Bakou veut apaiser la situation dans la région en raison des effets des tensions entre l'Iran et Israël, où on voit bien que Bakou n'a pas intérêt à les attiser, ces tensions, sachant que Bakou est proche d'Israël, mais frontalier de l'Iran. C'est en tenant compte de tous ces facteurs, on va s'asseoir autour de la table, sachant que l'heure décisive apparaîtra quand il y aura des négociations sur le sud, c'est-à-dire la région du Sunik, et on verra à ce moment-là comment Bakou se comportera.
Des propos recueillis par Alexandra Siergan. Autre conflit dans l'ex-URSS, celui en Ukraine, où le gouvernement cherche à faire rentrer au pays les hommes âgés de 18 à 60 ans. Pour cela, les services consulaires qui leur sont dédiés sont suspendus. Impossible de remplir certaines obligations administratives. Les autorités espèrent ainsi contraindre ces hommes en âge de combattre ou de servir dans l'armée de revenir au pays. Le manque de soldats, mais aussi le manque de munitions, l'armée ukrainienne est confrontée depuis des mois à ces deux défis majeurs. L'aide de 61 milliards de dollars des États-Unis définitivement approuvée hier après le vote du Sénat est ainsi vivement appréciée par Kiev. Le président Zelensky a remercié ce matin les sénateurs, espérant maintenant la signature du président Biden pour valider cette aide. Un peu plus de 300 000 euros. C'est le montant de l'excédent budgétaire argentin au premier trimestre cette année. Ce n'était pas arrivé depuis 2008. Une bonne nouvelle, selon le président Javier Milei, l'État est parvenu à dépenser moins qu'il ne gagne. Mais à quel prix? Des coupes drastiques dans tous les budgets et les universités ne sont pas épargnées. Des manifestations ont eu lieu hier dans tout le pays pour défendre l'enseignement public. Les recteurs d'universités ont annoncé qu'après fin mai, ils n'auront plus de fonds pour faire fonctionner les facultés et ont déclaré ainsi l'urgence universitaire. Le reportage à Buenos Aires de Caroline Vic.
En plein centre-ville, Azul Almeida, professeur d'embryologie à la faculté de médecine, donne son cours sur le trottoir.
On fait ce qu'on peut normalement, on donne cours au 10e étage, mais il n'y a pas d'ascenseur. Et puis on n'est pas payé, on travaille ad honorem, ça me rend triste pour la faculté. Mais je continue à travailler purement et exclusivement par amour pour la médecine, pour la faculté et pour la matière que j'enseigne.
Le président Milei a décidé de verser aux facultés la même somme que l'année dernière, sans prendre en compte donc l'inflation annuelle de près de 270%. Pour fonctionner normalement, les universités auraient donc besoin d'un chèque 3,5 fois plus élevé. Et aujourd'hui, les facultés agonisent, au grand regret d'Alejandro Martinez, doyen de l'université d'ingénieurs, joint par téléphone.
L'université de Buenos Aires est le deuxième consommateur d'énergie électrique de la ville. Et à ce rythme, notre vie utile est en train d'arriver à sa fin. Et à mesure que le temps passe, on se dit « mais on va vraiment devoir fermer ?» À ce stade, c'est en train de se transformer en quelque chose d'inimaginable. Ce serait de la science-fiction de fermer les universités.
Les doyens et les recteurs seront aujourd'hui aux côtés des étudiants lors d'une grande mobilisation pour défendre l'université publique qui, faute de moyens, pourrait fermer ses portes dès le semestre prochain. Caroline Vic à Buenos Aires pour Radio Vatican.
La journée mondiale des vocations a été célébrée dans la joie dimanche dernier au Cambodge. Il faut dire que s'il n'y avait aucune possibilité d'exister sous le régime de Pol Pot, qu'il n'y avait aucun prêtre ou religieux jusque dans les années 90, aujourd'hui, l'église locale, forte de 20 000 âmes, est en pleine croissance. Elle compte déjà 13 prêtres et un jésuite cambodgien. Un séminaire qui se remplit toujours davantage, 27 écoles maternelles, 15 écoles primaires, 2 lycées et une université. Preuve d'une communauté jeune et florissante. Monseigneur Olivier Schmittelser, des missions étrangères de Paris, n'y est pas pour rien. Il est vicaire apostolique de Phnom Penh depuis 14 ans. Il a bien voulu nous expliquer les secrets du dynamisme de l'église cambodgienne.
Ces dernières années ont été des belles années. J'avais mis en place en 2014 des nuits de prière pour les vocations une fois par mois et on a eu 100 nuits de prière entières pour les vocations. Et ça porte des fruits. Actuellement, on a 4 séminaristes, puis l'appel attire l'appel. L'année dernière, on faisait un pèlerinage avec les jeunes, et le dimanche matin, on avait un petit peu de temps. J'étais sous un arbre, un petit peu comme Jésus avec Nathanaël. Puis j'ai pris le micro et j'ai dit, s'il y en a qui veulent rentrer au séminaire l'année prochaine, venez vous inscrire. Il y en a 5 qui sont venus, en fait. Plus tard, il y en a encore 3 autres qui se sont inscrits. Et parmi ces 8, il y en a 7 qui sont effectivement entrés en propédeutique cette année. C'est la première fois, en fait, depuis des années qu'on a une propédeutique aussi conséquente. Ça doit être un signe que l'esprit travaille et un signe aussi que notre Église est vivante aussi à travers ces jeunes, puisqu'on est une Église très jeune. Beaucoup des baptisés ont 18, 20 ans, 30 ans. Mais on est aussi une Église de la première génération. Quand j'ai commencé à être curé, en 2002, j'étais dans un petit village où il y avait un seul catholique. Ma paroisse, c'était un catholique. Et depuis 2003, j'ai baptisé. Et actuellement, cette paroisse, Notre-Dame du Sourire, a 400 catholiques. Et elle a essaimé 8 nouvelles communautés dans une province du sud de Phnom Penh, Pakeo, où ce sont tous des Khmers de la première génération. Mais cette première génération s'est mariée, a des enfants, donc on commence à avoir des chrétiens de la deuxième génération. Mais on est encore au temps des Actes des Apôtres. Oui.
Est-ce que justement, vous pouvez peut-être me raconter un appel, une histoire de quelqu'un qui a ressenti la vocation, qui vous a touché et qui peut-être a pu être un témoignage pour d'autres?
Eh bien, un des jeunes prêtres que j'ai ordonné au mois de septembre l'année dernière, là, je pense sa vocation, il l'avait depuis qu'il était petit, il allait à la messe avec ses parents. Cet appel avait du mal à se concrétiser à cause de sa famille, parce que sa maman avait un seul enfant, c'était ce fils-là. Et elle a dit, si un jour j'ai un deuxième enfant, je vais pouvoir te donner au Seigneur. Et puis, il y a eu un miracle qui s'est produit, et elle a pu avoir ce deuxième enfant, et il est parti pour rentrer au séminaire, et là je l'ai ordonné. Et je pense que ces témoignages d'amour de l'Église, d'amour aussi de la famille, des parents, des soutiens de la communauté, qui sont des appels particuliers et qui invitent d'autres jeunes à regarder et à voir aussi, parce que évidemment la difficulté de répondre à un appel aujourd'hui, c'est quand on est issu d'une famille bouddhiste, qu'on est le seul baptisé de la famille et qu'on veut rentrer au séminaire, et pour certaines familles, c'est compliqué de donner cet enfant au séminaire.
Dans une église comme la vôtre, j'imagine que la particularité, c'est un peu aussi de, entre guillemets, adapter la religion et faire du catholicisme, non pas la simple religion des anciens colons ou des missionnaires, mais aussi l'adapter un peu à la culture khmer et qu'elle devienne une religion locale. Comment est-ce que vous avez fait?
Je dis toujours l'inculturation, de toute façon, ce n'est pas les missionnaires qui la font, mais ce sont les chrétiens eux-mêmes qui chantent, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui prient, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui expriment leur foi dans leur langue. Tout le chemin du missionnaire, c'est de permettre aux chrétiens de pouvoir être chez eux et de pouvoir s'approprier cette foi nouvelle. Par exemple, dans la paroisse où j'ai été curé pendant 12 ans, chaque année, on fait des grandes représentations de la nativité, de la résurrection, de l'assomption, réécrit en forme poétique et théâtrale cambodgienne. Et parmi eux, il y a un de ces jeunes qui jouait Jésus d'une manière assez admirable. Et le fait de jouer Jésus par lui-même, un jour, il a rencontré Jésus et il a été baptisé l'année dernière. Il a découvert la foi à travers l'art.
Interrogé par Vianney Groussin, Mgr Olivier Schmittelser, vicaire apostolique de Phnom Penh, était l'invité ce matin de Radio Vatican.